Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi! Vous m'avez un petit peu manqué. C'est Marianne Paquette au micro pour C'est bon pour la santé ensemble pour les 30 prochaines minutes. Vous êtes sur Canal M. En février 2015, donc il y a exactement un an, 2212 personnes ici au Québec ont réussi tout un exploit, celui de ne pas boire d'alcool pendant 28 jours. Certains ont peut-être dit que ce mois-là avait été le plus long de leur vie, mais pour d'autres, c'est évident que ça a permis de sensibiliser la place que prenait l'alcool dans leur vie. Ce défi 28 jours sans alcool, il sert également à venir en aide, une aide financière à la Fondation Jean Lapointe. Et tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, je vais discuter avec l'instigateur de l'initiative, Jean-Sébastien Chouinard. Et puis, pour le grand public, tout comme pour les policiers, hein, depuis plusieurs années, la violence conjugale qui est faite aux femmes, bien, c'est un phénomène qui est connu, qui est documenté et que l'on tente de contrer par différents moyens de sensibilisation. La bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne selon des données rendues publiques par Statistique Canada à la fin du mois de janvier. Toutefois, ces statistiques-là révélaient aussi d'autres chiffres plutôt inquiétants, plus méconnu aussi, à savoir que, contrairement à ce que l'on pense, les hommes sont tout aussi nombreux à être victimes de violences conjugales. J'en parle à l'instant avec Stéphane Gay, lui criminologue et spécialiste des questions relatives à la violence conjugale. Stéphane Gay, bonjour.
Bonjour.
L'une des choses qui vous a particulièrement étonné, Stéphane, dans ces données rendues publiques par Statistique Canada vers la fin du mois de janvier, c'est une forte diminution de la violence conjugale au pays.
Absolument. En fait, c'est une baisse, disons, qu'on n'avait pas vue depuis l'existence de ces enquêtes de Statistique Canada qui ont débuté au début des années 2000 et qui ont été répétées donc à quatre reprises depuis. Alors, dans les trois premiers rapports, on parlait, en fait, le taux de violence conjugale demeurait sensiblement le même, soit autour de 6 à 7 %. Mm-hmm. Alors, dans ce cas-ci, on tombe avec un taux de 4 %, ce qui correspond à une diminution de 40 %. Alors, c'était assez inattendu, en effet.
Oui, c'est près de la moitié, et vous disiez même que vous auriez pas pu gager là-dessus, sur cette diminution-là. Comment on peut expliquer cette... En fait, c'est une bonne nouvelle, hein? Je pense qu'il faut le mentionner. Comment on peut expliquer la diminution de violence conjugale?
Évidemment, c'est une très bonne nouvelle, cette diminution-là, et probablement que on peut conclure. C'est difficile de trouver exactement quels ont été les éléments contingents à cette baisse, mais on peut certainement croire que, d'une part, toutes les campagnes de sensibilisation ont fait en sorte que les personnes, donc, ça les a dissuadées, en fait, d'en faire usage, ou peut-être bien aussi que les gens ont peut-être mis un terme à leur relation violente plus rapidement. Par ailleurs, il y a aussi dans à peu près toutes les provinces donc des protocoles de prise en charge au niveau de la violence conjugale par les policiers. C'est-à-dire que les policiers peuvent maintenant, disons, procéder à une arrestation, même sans plainte de la part de la présumée victime. Alors, lorsqu'il y a assez d'indices présents là, dans l'environnement, enfin, notamment lorsqu'ils voient qu'il y a des blessures qui ont été subies, bien, à ce moment-là, ils sont en mesure d'intervenir. Et d'autre part, on peut croire aussi qu'il y a d'autres initiatives qui ont été prises, peut-être en plus bas âge, peut-être au niveau de l'école, comme par exemple les programmes qui visent à diminuer l'intimidation, par exemple, en milieu scolaire, ont amené ces jeunes-là à mieux comprendre ce qu'est la violence, puis éventuellement à peut-être agir de façon plus active là, lorsque ça se présente.
Pour les instigateurs de ces campagnes de sensibilisation ou ceux qui ont œuvré contre l'intimidation, ça doit être assez encourageant de voir que les actions portent fruit. Parce que là, c'est très, très concret.
Absolument. Jusqu'à date, on peut dire que les résultats n'étaient pas tout à fait tangibles. C'est-à-dire que, bon, on pouvait les sentir un peu dans les discours des gens, mais là, dans ce cas-ci, une baisse là, qui se situe entre 40 et 50 %, je pense que ça vient en tout cas indiquer que les efforts ont porté fruit. Cela étant, il faut évidemment poursuivre ces efforts-là et nécessairement, ils ont encore beaucoup de sensibilisation à faire. Mm-hmm. Parce que, entre autres, ce que les données de Statistique Canada nous révèlent, c'est surtout l'occurrence de violence qui survient, donc entre conjoints ou ex-conjoints. Et cependant, elle nous parle surtout de ce qu'on appelle la violence, disons, un peu plus mineure dans l'ensemble. On voit que la majorité des actes rapportés sont de la violence mineure. Alors que si on va dans un autre volet justement du rapport de Statistique Canada, on voit aussi la violence qui est rapportée, dans le fond, par les autorités policières. Oui. Évidemment, celle-ci est beaucoup plus grave puisqu'elle amène justement quelqu'un donc à contacter la police. Alors, je pense qu'il faut continuer, en tout cas, très certainement, à examiner ces deux types de données-là et d'ajuster le tir en conséquence.
Mais Stéphane Gay, vous qui êtes criminologue, vous œuvrez justement au sein de la violence conjugale. En fait, vous étudiez ces chiffres-là. Mm-hmm. Comment on peut faire la distinction entre violence mineure ou plus importante? Ce serait quel genre d'action?
Bon, il y a différents types de violence conjugale. Alors, on la décortique là, sous forme de violence verbale ou psychologique. Encore, il y a aussi de la violence économique. Mais il y a aussi donc cette violence physique, évidemment. Et la mineure, évidemment, on met toujours des guillemets autour de mineure, puisque chaque acte de violence est grave d'une certaine façon. Mais la violence mineure réfère ici au fait de par exemple, lorsqu'une personne pousse une autre ou encore la gifle. Essentiellement, on tourne autour de ça. Alors que la violence sévère, elle, on réfère ici davantage à des coups de poing, des menaces avec armes ou encore des coups de pied. Alors, c'est évidemment la grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est la plus sévère, qui a un risque plus grand de causer des blessures ou des lésions physiques que l'autre. Alors, en ce sens-là, la violence qui est déclarée à la police et donc qui a fait l'objet d'un appel d'une personne, alors qui peut être la victime elle-même ou encore un voisin, en général, donc là, on parle de violence sévère.
Stéphane Gay, l'une des choses, moi, qui m'a étonnée suite à la lecture de ces données-là, c'est la violence que subissent les hommes et c'est un degré assez élevé.
Absolument. Je pense qu'à ce moment-ci, on est plus ouvert et prêt aussi, disposé à prendre connaissance de ce résultat-là. Et cette fois-ci, par rapport aux autres rapports qui ont été publiés là, par Statistique Canada depuis le début des années 2000, on m'en parle de cette violence-là qui est subie par les hommes d'une certaine manière ou commise par les femmes. Mais depuis le tout début de ces rapports-là, c'est un constat qui ressort. Il y a autant d'hommes que de femmes qui rapportent avoir été victimes de violences conjugales. Et par ailleurs, donc, ce n'est pas tout à fait un constat nouveau, mais on dirait que là, il y a un nouvel éclairage dessus là, aujourd'hui, en 2016. Mm-hmm. Et c'est tellement, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis déjà le milieu des années 80, puisqu'aux États-Unis, il y avait déjà procédé à ce moment-là une enquête où ils mesuraient la violence subie par les hommes et les femmes. Et ils étaient arrivés exactement à ce constat-là. Alors, ça peut paraître surprenant, mais encore une fois, je me permets de faire un rappel au fait que c'est de la violence qui est rapportée dans cette portion là, du rapport de Statistique Canada, c'est ce qu'on appelle la violence autodéclarée. Et évidemment, cette violence autodéclarée-là, donc, elle peut permettre, je vous dirais, d'aller explorer le fameux chiffre noir de la violence, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui en vivent, mais qui n'appellent pas la police pour autant. Dans le cas des hommes, c'est encore plus vrai. Je pense qu'il y a encore un tabou actuellement dans la société concernant la violence conjugale subie par les hommes. Il y a énormément moins de ressources pour ces hommes-là et ils vont avoir aussi moins tendance à en parler, même à leurs proches. Alors, tantôt, je vous disais que la violence mineure, c'est ce qui fait essentiellement partie là, de ces données-là. Et je pense que ces hommes-là, effectivement, vivent autant de violences, disons, conjugales mineures, entre guillemets, toujours, que les femmes. Par contre, si on regarde les données concernant ce qui a été, disons, compilé, enregistré par la police, évidemment, là, on a un portrait différent. C'est beaucoup plus des femmes qui en subissent et très peu d'hommes vont très peu de femmes vont faire l'objet d'une arrestation parce qu'elles ont commis de la violence conjugale envers leur conjoint, alors que l'inverse est plus vrai, là, vraiment. Alors, vous voyez, on a vraiment deux patrons de données différents ici, et puis il faut vraiment le regarder avec un regard différent aussi.
Bien, peut-être que les hommes dénoncent moins la violence conjugale, justement parce que leurs conjointes ou ex-conjointes sont moins amenées à vivre des conséquences de cette violence conjugale-là. Ces hommes-là ont peut-être peur de faire rire d'eux suite à ces dénonciations-là.
Absolument. Bon, de façon générale et de façon, on peut dire, presque généralisée, les hommes ont toujours moins tendance à demander de l'aide que les femmes, qu'il s'agisse d'un problème de santé ou un peu importe. Alors donc ici, je pense que la tendance est peut-être même encore plus accentuée. Et dans le cas de la violence conjugale, qui est évidemment, qui va à l'encontre du stéréotype là, masculin dans la société, à savoir un homme, c'est fort et ça se fait pas, ça se fait pas malmener par une femme. Eh bien, le fait que ça aille de déclarer de la violence que ça aille à l'encontre d'autant de stéréotypes, ben évidemment, ça devient un obstacle pour eux. Mais cet obstacle-là est presque, je vous dirais, même réaliste. Donc, c'est pas seulement dans la tête des hommes, que ça existe. Je pense qu'il y a encore, évidemment, bien des policiers qui sont pas sensibilisés à cette réalité-là. Et comme il y a aussi très peu de ressources, ben peut-être qu'ils se disent aussi, ben de toute façon, j'aurai de la misère à trouver une place qui vont pouvoir me donner de l'aide. Mm-hmm. Alors, ceci dit, encore une fois, là, quand on compare les données de violence autodéclarée versus celles qui viennent de la police, évidemment, cette violence autodéclarée peut-être génère moins de conséquences négatives pour les hommes, quoique ça en génère aussi, et peut-être qu'ils ressentent un petit peu moins le besoin que les femmes de recevoir de l'aide. Alors, vraiment plusieurs facteurs à considérer, mais assurément, la violence conjugale envers des hommes, c'est encore un sujet tabou en 2016.
Quelles sont-elles ces conséquences négatives-là, Stéphane Gay, autant pour les hommes que pour les femmes?
Bien, écoutez, quand on parle de violence sévère, on parle évidemment de violence, de blessures physiques, c'est certain. On sait très bien que ces blessures-là, bon, peuvent être mineures, mais bon, elles peuvent être aussi répétées et tout ça. Et de vivre des blessures comme ça, ça peut amener effectivement donc une difficulté à fonctionner dans ses activités au quotidien. Par ailleurs, ça peut évidemment être beaucoup plus grave. Et les campagnes de sensibilisation sur la violence conjugale nous montrent beaucoup de ces images-là, évidemment, des blessures subies par les femmes. Par contre, il y a beaucoup de blessures et de lésions psychologiques qui viennent avec la violence conjugale. La plus évidente étant celle du stress post-traumatique, donc un problème de santé mentale qui peut découler du fait d'avoir été exposé à des événements qui ont menacé notre intégrité physique. Alors évidemment, dans le cas de la violence conjugale, c'est clair qu'on tombe dans cette catégorie-là. Par ailleurs, il y a une foule d'autres aussi conséquences. Évidemment, ça peut diminuer le sentiment de sécurité des gens de façon générale parce que effectivement, et notamment par les ex-conjoints, il y a encore du harcèlement qui peut se faire suite à la rupture conjugale. Mais il y a aussi, il y a de la colère aussi qui peut se développer, il y a de la frustration, il y a vraiment un ensemble de souvent d'émotions négatives et assez fortes en fait qui peut, disons, en découler en plus du stress post-traumatique. Et là, lorsqu'on parle de stress post-traumatique à court, moyen, long terme, on peut parler aussi d'un risque accru de développer de la dépression, d'autres troubles anxieux ou même des problèmes de consommation.
Je pense aussi à ce cycle-là. J'imagine que ce n'est pas le cas dans toutes les familles, mais ce cycle qui se répète d'enfant à l'adulte et à travers les générations, il faut surveiller ça aussi.
Ah, très, très clairement. Une des choses qu'on commence à comprendre, je vous dirais, davantage là, depuis une dizaine d'années, c'est justement le fait, et ça c'est grâce à des études longitudinales, mais on voit que les conséquences de la violence conjugale, il y en a pas seulement chez les conjointes et les conjoints, mais aussi chez les enfants. Et suffisamment que les enfants qui seraient exposés à la violence conjugale entre leurs parents, mais donc qui en seraient témoins, bien ça, en soi, là, ça c'est une condition qui est suffisante, en fait, pour la Direction de la protection de la jeunesse pour sortir un enfant de son milieu familial. Parce qu'on sait que ça a le potentiel d'avoir d'énormes conséquences négatives chez les enfants. Bien sûr, sur le plan psychologique, s'ils en sont seulement témoins. Mais ce qu'on voit, c'est que, justement, lorsqu'ils en sont témoins, et il faut voir qu'il y a une corrélation aussi entre le fait de commettre de la violence conjugale et d'en commettre envers les enfants. Donc, le risque est quand même accru pour les enfants de vivre de la violence eux aussi, donc des abus physiques notamment. Et ça, on voit qu'au long terme, ça a toutes sortes d'incidences. Alors, sur leur santé mentale en bas âge, éventuellement sur le risque de décrochage scolaire, éventuellement plus de pauvreté. Et c'est comme ça, éventuellement, que le cycle peut se répéter et au fil du temps, puis les amener à avoir de la difficulté à développer des habiletés, je dirais, pour entretenir des relations durables, donc sur le plan amoureux. Alors, c'est vraiment là depuis les 10 dernières années là, qu'on commence à comprendre comment ce cycle-là peut, se perpétuer dans le temps.
Et comment on le brise, ce cercle-là, en terminant, Stéphane Guay, j'imagine, en dénonçant, est-ce qu'il est possible de prévenir la violence conjugale?
Ah, il est tout à fait possible de prévenir la violence conjugale. Bien entendu, en mettant un terme aux relations violentes le plus tôt possible, certainement développer des habiletés de communication et de résolution de problèmes qui sont adéquates. Il existe peu de programmes, malheureusement, pour les jeunes couples, là, encore ici au Québec et au Canada, mais aux États-Unis, ça existe un peu plus. Ce sont des programmes justement qui ciblent en fait les jeunes adultes sur le point de se marier. Alors le mariage étant moins populaire au Québec, on s'en sert moins un peu, mais cela étant, c'est possible et je pense qu'il y a plusieurs des initiatives qui sont prises dans les écoles primaires et secondaires pour apprendre aux jeunes justement à prévenir l'intimidation via une meilleure affirmation de soi. Je pense que ça, ce sont quand même des composantes qui peuvent contribuer à prévenir et à diminuer la violence conjugale.
Et si l'on voit, si on observe ces beaux résultats qu'il y a eu dans les 10 dernières années, on peut se permettre d'avoir espoir aussi qu'on continuera à contrer la violence conjugale.
Très certainement. L'objectif, c'est de l'éliminer. C'est évidemment un peu difficile à atteindre comme objectif, mais c'est celui-là qu'il faut viser très clairement. Donc, et il faut certainement pas, diminuer les efforts qu'on y met.
Stéphane Guay, je le rappelle, vous êtes directeur du Centre d'études sur le trauma et de l'équipe de recherche Visage de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, également directeur scientifique du Centre de recherche de ce même institut. Merci beaucoup, Stéphane Guay.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour Jean-Sébastien Chouinard.
Allô Marianne, ça va?
Ben oui, vous aussi, toi aussi?
Ben ouais, super.
Je sais pas si je ne sais plus si je dois te vouvoyer ou te tutoyer, Jean-Sébastien. On se connaît un petit peu parce que à l'époque d'Expert en série, tu étais là pour nous présenter souvent des chroniques parce que tu es spécialiste des questions liées au web et aux médias sociaux. Mais aujourd'hui, pour nous parler de cette initiative Défi 28 jours sans alcool, c'est né en janvier 2012, Jean-Sébastien.
Oui. Oui, c'est né en janvier 2012. En fait, c'est né d'un défi entre un ami et moi que originalement on a fait ça en 2011. On s'est lancé comme défi de ne pas boire pendant février. Ce qu'on a fait, en fait, c'est que on trouvait ça plate de le faire seulement les deux ensemble. Donc on a invité nos amis via Facebook, via un événement Facebook. Et eux ont aussi invité des amis, puis ça a fait boule de neige. C'est devenu super populaire, plus grand qu'on pensait, là. Et là, il y a des blogueurs qui les ont repris, pris des articles, et puis là, ben, ça a vraiment été un mouvement, et ça, avec peu de moyens, qui était seulement un événement Facebook. Suite à ça, l'été suivant, la Fondation Jean Lapointe nous a approché pour en faire une levée de fonds. Et là, à ce moment-là, on a accepté de faire ça avec eux. Donc, on a transformé un peu notre pari entre amis pour en faire vraiment un événement caritatif. Ce qui a fait en sorte que, ben, on était approchés par la Fondation. Et là, le but de tout ça, là, avec le défi 28 jours, là, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible pour un programme de prévention à l'alcoolisme chez les jeunes qui s'appelle Mon indépendance, j'y tiens. Qui est en fait là, un programme qui c'est des animateurs qui vont dans les écoles puis qui montrent aux enfants, aux adolescents, c'est son R1 à 5, les trucs, astuces, des conseils pour avoir une consommation, on va dire, responsable. C'est déjà les éduquer à savoir c'est quoi les méfaits de l'alcool, la drogue. C'est pas les empêcher de la faire parce que c'est peut-être le meilleur moyen pour encourager les adolescents à le faire. Donc, c'est vraiment plutôt de les conseiller puis essayer de repousser davantage là, le moment où ça arrive de le faire. Mm-hmm. Donc, nous, on était amenés à financer ça d'une façon ludique, qui est en fait le défi là, de ne pas boire d'alcool pendant 28 jours, là, qui sont les 28 jours de février.
Et là, Jean-Sébastien, tu es en plein dans ce mois-là en ce moment.
Tout à fait. C'est ma quatrième année, là, à cause des années. Mais ouais, c'est vrai, je suis directement dedans. Ça fait déjà une semaine.
Avec une journée de plus en février, en plus, cette
année. ça serait pas si pire. Vu que c'est pas la première année que je l'ai fait, pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est vraiment pour les gens que c'est la première fois qu'ils le font.
Ça serait quoi tes trucs pour continuer à les encourager à ce qu'ils tiennent le coup pendant ce mois de février?
C'est les bienfaits. C'est que la première semaine, ça va. Si les gens. Faut aussi rappeler que le défi, c'est pas pour des gens. C'est pour tout type de personnes. Des gens qui boivent une fois par semaine, comme une fois. Qui boivent une fois par mois ou qui boivent. T'sais, peu importe le type, jusqu'à la personne qui boit tous les jours. Le fait, c'est juste d'être capable de changer une habitude de vie pendant. Bon, une période de temps, ça tombe bien. Cette année, c'est 29 jours. Mmh. Le but de ça, c'est de vraiment tenter de changer une habitude de vie. Ça tombe bien, c'est sur l'alcool. Le truc que je peux donner aux gens, c'est d'attendre les bienfaits. Je suis pas un grand consommateur d'alcool, mais plus que ça va avancer dans votre mois, plus que lorsque vous allez casser votre routine, d'en découvrir une nouvelle, parce que moi, je fais d'autres activités à la place ou je vais tenter autre chose, mais c'est le bienfait que ça va faire. C'est de changer, c'est de casser sa routine puis découvrir de nouvelles expériences avec ça. Donc, c'est de laisser tomber un peu ses préjugés, aussi de se dire je suis pas assez fort, là, si tout le monde est capable de le faire. Donc, c'est déjà d'attendre un peu. Ça va prendre, je pense, à peu près 10 jours. Ce qui est bien, en plus, j'avais des soupers avec des amis en fin de semaine. C'est sûr que tout le monde prend de l'alcool. T'es le seul qui ne boit pas d'alcool. Mais moi, je bois de l'eau minérale. L'eau minérale, t'as l'effet des bulles quand tu bois, puis ben ça c'est presque similaire. Là. Donc, l'effet placebo se fait. Moi, c'est mon propre truc. Puis aussi, je me restreins pas. Là. Je vais faire toutes les activités sociales que j'avais auparavant. J'ai fait pareil. Puis c'est ça aussi le truc, là. C'est sûr que j'ai confiance dans ce que je fais. Là. Donc, tu sais, je me coupe pas. Je me suis fait de fête pour un ami. Je suis allé. Hier, c'était Super Bowl avec des amis.
Oui, c'est vrai.
Ben oui. Puis, ben, et c'est ça qui est le fun. C'est aussi de vivre des expériences comme celle-là en étant complètement sobre de tête et d'esprit, là, ce qui fait en sorte que c'est assez intéressant.
Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a une application liée au défi 28 jours?
Oui. En fait, il y a plusieurs outils numériques pour aider à faire le défi 28 jours. Premièrement, pour s'inscrire, c'est le site web là, qui est défi28jours.com. Super simple à retenir. On va sur le site, on s'inscrit soit avec son courriel ou avec Facebook. En s'inscrivant, là, il faut faire un don de 28 $, donc soit 1 $ par jour. On vous donne la 29e journée, on est comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire, par contre, si vous pouvez donner plus, il faut pas oublier que chaque dollar va au programme de prévention. Donc, plus on donne, plus ça va aux enfants. Donc là, on s'inscrit. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est soit rejoindre une équipe existante, parce qu'on peut, il y a des équipes, donc chacun s'est créé une équipe. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez, avec des amis, c'est toujours plus fun que de faire ce défi-là entre amis plutôt que de le faire seul. Là. Donc, moi, j'ai une équipe avec mes amis. Donc là, tu peux rejoindre une équipe ou en créer une. Puis dans l'équipe, vous fixez des objectifs. C'est nous, notre équipe, on aimerait atteindre, on va dire, 1 000 $ au total de fonds accumulés. Comment accumuler davantage de fonds que le don personnel? On peut se faire parrainer. Donc, via aussi le site Internet, vous pouvez partager votre profil, puis les gens peuvent vous parrainer. Donc, le montant de dollars qui peut être de 1 à X nombre de dollars. Donc, et on invite beaucoup les gens à se faire parrainer par leurs amis. Surtout les gens là qui, comme en plus on en parlait hier avec des amis, tous ceux qui boivent devant moi, puis qui rient de moi, devraient me donner de l'argent.
Oui, tout à fait. Et se rallier l'année prochaine, en février 2017, on le souhaite que ça continue à faire des petits, cette belle initiative, Jean-Sébastien Chouinard. C'est vraiment un bel exemple du pouvoir des réseaux sociaux en matière de conscientisation en santé. C'est une belle idée de votre part. Jean-Sébastien Chouinard, instigateur de l'initiative Le défi 28 jours sans alcool. Bon courage. Merci Jean-Sébastien.
Bien, merci beaucoup.
Bye-bye.
Au revoir.
Jean-Sébastien de la Liberté à la mise en onde, c'est Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres en ce début de semaine, mais on poursuit. On sera là tous les jours à 14 h. À demain. Portez-vous bien. Bye-bye.